Écoute.
Des fois, on comprend pas pourquoi est-ce qu'on vit certaines souffrances. Puis des fois, on la comprend parce qu'on a fait certains choix qui nous ont conduits là aussi. Hein? C'est un peu ce qu'on a entendu à travers le témoignage de Louis. Et à travers le témoignage de Rachel, mais des fois aussi, quand on est dans des situations près de gens qui font des choix qui peuvent être difficiles, ben ça nous affecte aussi. Et dans la famille, je crois que plusieurs d'entre nous, on a déjà vécu des situations où on vit encore des situations que la famille, des fois nos liens, on est prêts, souvent dans la même maison ou et les liens familiaux font en sorte qu'on est affecté aussi par les choix de d'autres. Et Rachel a été affectée, comme Louis aussi avait une souffrance dans son cœur, puis Rachel avait une souffrance aussi à cause de ces situations-là. Et je suis content d'avoir entendu vos témoignages de comment est-ce que aussi Dieu vous a relevé, puis vous relève encore. Puis Louis, tu termines en septembre, tu disais? Et puis, je pense que c'est un sujet de prière aussi, ce qui se passe après, pour toi. Et c'est important que Dieu consolide tout cela, tout ça. Alors, j'aimerais, on va ouvrir les Écritures ensemble, mais j'aimerais quand même prier. On peut prendre le temps de prier, on peut prier pour Louis et Rachel, mais prier pour Louis aussi, pour ce qui se passe, que Dieu consolide ton futur, Louis. En septembre, parce que c'est un temps déterminant, je pense, aussi pour toi. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. Parce que, comme on vient d'entendre ce soir, des fois, on vit des situations parce qu'on les a choisies. Des fois, on vit des situations parce que on a quelqu'un près de nous qui a fait des choix, Seigneur, qui ne te glorifie pas. Mais on veut te louer parce que, quoi qu'il en soit, Dieu, quand on se tourne vers toi, quand on confesse nos péchés, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu qui nous pardonne, tu es le Dieu qui nous relève. Ton désir, Dieu, c'est qu'on te suive et c'est qu'on ait cette relation-là avec toi, ce que tu désires avec nous. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu as fait dans la vie de Louis. Je te loue, Seigneur, parce que je me souviens qu'on priait souvent pour lui, pour que tu touches son cœur, pour que tu le ramènes à toi. Et Seigneur, on a le privilège ce soir de l'avoir entendu. De ce que tu as fait dans sa vie. On a l'occasion d'avoir entendu comment est-ce que tu as répondu à nos prières et on veut te louer aussi pour ce que tu as fait dans la vie de Rachel, que tu l'as préservée, Seigneur, malgré les questionnements qu'elle a eus, que tu as quand même affirmé sa foi et que tu l'as conservée, Seigneur, dans la fidélité. Je te prie pour que tu puisses affirmer ces décisions que Louis a prises dans sa vie, de te suivre, que de t'être fidèle à toi. Et pour septembre, que tu le diriges là où il va aller, que tu permettes déjà, Seigneur, de tracer le chemin devant lui et pour qu'il puisse continuer de consolider ses décisions qu'il a prises pour toi. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. Dieu veut qu'on soit des consolateurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu veut qu'on soit des consolateurs. Qu'on ait le ministère de consolation. OK, ceux qui n'ont pas répondu, c'est parce que vous n'êtes pas sûr ou vous auriez envie de dire non. Si vous dites que oui, pourriez-vous me nommer différents textes qui confirment cette déclaration-là? Dieu veut qu'on soit des consolateurs. Est-ce qu'il y a des textes qui confirment cette déclaration-là dans les Écritures? Si oui, lesquels? Yvan? Ouais. Rappelez-vous les vérités. Rappelez-vous l'espérance. Oui, absolument. Oui, Jacinthe. OK. On le garde en stand-by, tu veux-tu? Parce qu'on va le relire tantôt. On le garde, mais garde ton doigt dessus, je vais te le faire lire tantôt, Jacinthe. Merci beaucoup. Dieu nous a confié le ministère de consolation. D'autres textes qui vous viennent comme ça spontanément en tête? Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. Et on pourrait en citer plusieurs. Si Dieu a confié des dons à certains, quand on est sauvé, chacun de nous, Dieu a donné des dons. Et on pourrait prendre, par exemple, l'évangélisation. Hein? Vous êtes d'accord pour dire que Dieu a donné les uns comme évangélistes? Est-ce que ça veut dire que si j'ai pas le don d'évangéliste, que j'ai pas à évangéliser? Vous êtes d'accord qu'on a tous la responsabilité que d'être des témoins? De la même façon pour le don d'exhortation, de prendre soin, par exemple, si Dieu a donné le don à certains, ben Dieu a donné quand même la responsabilité à chacun d'entre nous, entre frères et sœurs, que de prendre soin comme ça, de se consoler les uns les autres. Et aider les autres, ça peut être risqué. Êtes-vous d'accord? Ça pourrait être risqué. On va revenir sur ce que je viens de dire. Je vais vous poser une question. Je vous invite à tourner dans Luc 10 pendant que je vous pose la question. On va lire un texte ce soir qui on connaît bien. Une histoire qu'on lit pas nécessairement dans la pensée de la souffrance, mais on va le regarder sur cet angle-là ce soir, si vous voulez bien. Luc 10, je vais y tourner moi aussi. Si vous étiez dans la souffrance, si vous avez déjà été dans la souffrance, ou le jour que vous serez dedans, comment aimeriez-vous recevoir de l'aide? Quelle attitude, quelle action aimeriez-vous qu'il soit posé pour avoir de l'aide? Claude. Une présence. OK? C'est probablement ce que les amis de Job avaient fait de mieux, hein? Au tout début, pendant 7 jours, ils ont été présents sans parler. Mais c'était peut-être suffisant. Il aurait dû repartir après ça. Ça a commencé à mal aller quand ils ont ouvert la bouche. Quoi d'autre? Comment aimeriez-vous être utilisé, pas utilisé, mais consolé? Sans jugement. Oui, de ne pas être jugé, absolument, besoin d'aide. Oui, Claude, tu as beaucoup d'idées, hein? OK, une écoute aussi. Comment aimeriez-vous être aidé? Oui, juste un support momentané, ponctuel des fois. Oui, oui. Oui, Michel. Ouais. Ouais. Prier ensemble d'avoir des bons conseils, de ramener aux vérités. Peut-être on aurait pu étirer différents autres aspects sur la souffrance, mais dans la souffrance, je crois que le malin peut vraiment s'immiscer dans nos vies puis nous faire croire du mensonge. Et on a besoin que d'avoir les vérités de la parole pour nous ramener à une juste perspective. Et sans non plus avoir ramené à des vérités dures et froides et un peu comme les amis de Job étaient insensibles, là, mais d'avoir quand même, comme ce que Jonathan a fait avec David, vous vous souvenez? David est allé se cacher dans la forêt, désespéré, découragé, parce que Saül avait dit qu'il allait le tuer, et là, Jonathan est venu le voir, puis l'a encouragé. Il a dit, David, non, oublie pas que tu as été loin, c'est toi qui vas être le roi, puis c'est pas moi qui est le prince, c'est toi qui vas le devenir. Puis il l'a encouragé avec des vérités. Une autre question rapide avant qu'on lise le texte. Qu'est-ce qui est à éviter? Dieu veut qu'on soit des consolateurs, mais qu'est-ce qui est à éviter? D'accuser? Regarde ce que tu as fait, tu l'as bien mérité. Mais viens avec. OK. Ouais. Ouais. OK, on va dans le même sens. Qui pourrait être de l'apitoiement, c'est ce que tu veux dire? OK. OK. Oui, Michel. OK. D'alimenter un apitoiement, ça pourrait être ça que tu pourrais dire? OK. On pourrait commenter sur beaucoup de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne devrait pas faire. Et le temps est plutôt court, mais là où ce que je voulais en venir, c'est que Dieu, à chacun d'entre nous, nous demande d'être des consolateurs. Je pourrais juste, avant qu'on lise Jean 10, là, j'avais plus de choses que je voulais dire que ça ce soir, là. Mais, Luc 10, restez dans Luc. Mais je veux juste vous citer comment est-ce que le Saint-Esprit lui-même est appelé? Et vous le savez, là, Jean 14, 10, je vais juste vous le citer, pas besoin de tourner, Jean 14, 16, excusez. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, Parakaleo, qui est appelé à côté d'eux. » C'est ça, un consolateur? Qui est appelé à côté d'eux. Et le consolateur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit, évidemment, a un ministère particulier, qui est pas, on pourra jamais faire le même ministère que le Saint-Esprit, mais à la même image du ministère que le Saint-Esprit a, que de venir à côté d'eux, puis d'encourager, puis d'être avec nous. Il dit aussi au verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Un peu comme on dit tantôt, l'idée que d'être à côté, mais d'encourager aussi. Que d'être présent, mais d'encourager aussi avec des vérités, de rappeler. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est avec nous. Et si on vit des afflictions, des épreuves à cause de notre foi, mais le Saint-Esprit est appelé un consolateur qui est avec nous et qui est présent avec nous et puis qui nous rappelle des vérités. Dans Luc 10, verset 25, à un moment donné, il y a un docteur qui se lève et il dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Un docteur devrait savoir ça. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Il avait bien catché, hein, le docteur de la loi. Jésus avait déjà dit, c'était les deux plus grandes lois. Et il vient de les citer. Jésus va valoriser ce que le docteur de la loi a ramené, qu'il avait bien compris. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Alors, verset 30, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » À un moment donné, ce docteur de la loi a posé la question, « C'est qui mon prochain? » Il vient de dire, « Tu aimeras ton Dieu, puis tu aimeras ton prochain. » OK, mais c'est qui mon prochain? Duquel que je dois prendre soin, que je dois aimer, je dois manifester de l'amour? Pourquoi, je pose la question, pourquoi est-ce que le sacrificateur et le lévite ont passé outre? Je pose une question parallèle. Pourquoi passerions-nous à côté de notre prochain qui est dans la souffrance? Qu'est-ce qui a amené le sacrificateur et le lévite à constater un homme qui est à demi-mort puis de continuer le chemin? Qu'est-ce qui a amené ces hommes-là à aller plus loin, à passer outre? Il y a d'autres choses à faire, plus importantes. Comment? De l'indifférence. Il n'y a aucun sentiment qui est révélé là, qui est montré. Ils ont vu, ils ont continué. Pourquoi est-ce qu'ils ont continué? Pourquoi est-ce que, je pose la question qui pourrait peut-être se diriger plus vers nous, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir peur ou qu'on ne voudrait pas risquer que de prendre soin de quelqu'un qui est dans la souffrance? De l'égoïsme? Ouais. Oui. Oui, OK. Un manque d'amour. Oui, oui. Claude? Oui. Oui. Ça demande du temps, de l'engagement. Oui, Serge. Ouais. Il y a un prix à payer. C'est ça? Que ça leur a coûté au sacrificateur ou aux lévites? Il aurait fallu qu'ils arrêtent. Ça coûte du temps. Ça coûte le temps de s'arrêter, de prendre soin. Puis des fois, probablement qu'on le fait pas parce qu'on a peur. On sait pas comment s'y prendre. On sait pas quoi dire. On sait pas quoi faire. Et on n'ose pas trop. Et on a peut-être peur de décourager encore plus. On a peur de l'achever. Si c'était l'homme qui est laissé à demi-mort. Mais le Lévite, c'est quoi? Pas le Lévite, excusez. Le Samaritain, qu'est-ce qu'il y avait de différent qu'il nous est dit dans le texte? Ému de compassion. Verset 33, un Samaritain qui voyageait, et un Samaritain, en théorie, aurait pas dû nécessairement s'arrêter pour cet homme-là. Là. Le sacrificateur, le Lévite, c'était la haute trempe religieuse. Là. Et eux auraient dû connaître l'amour que Dieu s'attend d'eux. Puis pourtant, c'est un Samaritain qui est arrêté là, qui étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il l'a vu. C'est ça qu'il y avait de différent. Il a été ému de compassion, mais c'est pas tout. Il a été ému de compassion, mais il a pris soin aussi. Qu'est-ce qu'il y avait de plus que les autres? Ou qu'est-ce qu'il a été prêt à faire de plus que les autres? Dans le texte, qu'est-ce que le Samaritain a fait pour cet homme-là? Il a payé. Ouais. Ouais. Il a payé pour cet homme-là. Puis si ça coûte plus cher, dis-moi-le, je vais le payer. Qu'est-ce qu'il a fait aussi, cet homme-là, le Samaritain? Il a pensé ses plaies. Il a pris le temps de s'arrêter. De penser ses plaies. Il s'est approché. Ouais. Il s'est soucié de lui. Il s'est pas arrêté à avoir le sentiment de compassion, mais sa compassion l'a amené aussi à poser des actions. Et là, on a vraiment une situation très, on pourrait dire physique, hein. On pense sur l'aspect physique. La personne a été tabassée et puis elle a des plaies. Mais on peut avoir un frère ou une sœur qui, dans la souffrance, qui est pas nécessairement une souffrance physique, ça peut être une souffrance morale, spirituelle. Mais est-ce qu'on va s'arrêter et prendre soin? C'est l'exemple que Jésus nous a donné pour montrer l'amour que l'on a envers notre prochain. Quand notre prochain est dans la souffrance, Jésus est en train de nous dire que d'en prendre soin, c'est ça l'amour. Et c'est pas obligé d'être une souffrance nécessairement physique. Le texte dit aussi, verset 34, il s'est approché, il a pris soin de ses plaies, il l'a mis sur sa propre monture, hein, il a sacrifié son moyen de transport pour transporter l'autre qui était plus capable de marcher. Il l'a conduit, puis il a pris soin de lui, puis il a payé le nécessaire. C'était risqué ce qu'il faisait. Il sacrifiait beaucoup de choses. Il sacrifiait peut-être sa réputation avec les autres Samaritains. Il sacrifiait son temps, son argent. Mais il l'a aimé, son prochain. C'est ça que Jésus a révélé sur cet homme-là. À quel personnage de cette histoire est-ce qu'on peut s'identifier? Tu veux-tu lire, Jacinthe, 2 Corinthiens 1, 3 et 4? Ouais. Alors, on a eu peur aux souffrances, on va avoir peur aux souffrances, mais Dieu est le Dieu de toute consolation. Et ayant goûté la consolation, ayant été consolé par Dieu, ayant été pris soin aussi par Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu nous confie? De nous-mêmes aussi dispenser cette consolation-là que de prendre soin. Je posais tantôt la question, et c'est une question qu'on peut se poser à chacun d'entre nous. Le texte de 2 Corinthiens nous dit que on peut passer d'un rôle à l'autre. On peut être une période dans nos vies où on a besoin de consolation. La personne qui a besoin d'être consolée. Puis, à un moment donné, on peut être la personne qui peut être utilisée pour être le consolateur, pour prendre soin. Des fois, la transition entre les deux n'est pas nécessairement évidente. Des fois, on peut avoir été la personne qui a consolé, Puis ça demande beaucoup d'humilité quand on a besoin d'être consolé aussi, et d'avoir de l'aide. Mais à quel personnage de la parabole est-ce qu'on peut s'identifier? À l'homme blessé? Au brigand? J'espère que non. Le sacrificateur ou le lévite? Le samaritain? L'aubergiste? Dieu veut qu'on s'identifie au samaritain qui a pris soin de son prochain. C'est ça qu'il a demandé au docteur de la loi. Lequel est-ce qu'il a exercé, qui a montré qu'il était son prochain? C'est celui qui a exercé la miséricorde. Quel principe pouvez-vous mettre en pratique au quotidien, tant dans votre vie personnelle que dans le ministère que vous exercez envers ceux qui souffrent? Comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique? C'est des questions qu'on peut se poser et dans un domaine qui chacun d'entre nous nous touche. Dieu utilise la souffrance pour différentes choses, pour transformer nos vies, mais aussi pour qu'on soit des outils dans sa main pour transformer. On arrête là. On a dépassé le temps. Question, commentaire, quelque chose. Question, commentaire rapide. Tout est dit. C'est bien. On va prier. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. Parce que comme on vient de le lire, c'est toi le Dieu de toute consolation. Seigneur, tu es présent dans nos vies. Tu es là et tu nous montres, Seigneur, que tu prends soin de nous. On se rappelait comment est-ce que toi-même, à travers ton Fils, que tu as souffert à cause du péché, à cause de nos péchés. Et si quelqu'un comprend notre souffrance, c'est bien toi. Et on veut te louer que de nous avoir donné ton esprit, qui est appelé un consolateur. On veut te louer que de nous avoir donné ton Fils, qui est venu mourir pour nos péchés. On veut te louer, Seigneur, que de nous donner ta consolation, que tu prennes soin de nous. On veut te louer que tu nous utilises aussi pour communiquer ce bien-là à nos frères, à nos sœurs, à notre prochain même. Seigneur, on veut nous-mêmes aussi prendre l'engagement que d'être comme ce Samaritain qui a pris soin de son prochain. Les deux plus grands commandements, tu nous enseignais que c'est de t'aimer puis d'aimer notre prochain. Et on veut que ça soit concret dans nos vies, Dieu. On veut mettre en pratique ce que tu nous demandes, ce que tu nous enseignes. On veut mettre en pratique ce que tu fais dans nos propres vies pour qu'on puisse même être des témoins aussi pour toi, mais communiquer ce ministère que tu as eu envers nous. On place cette soirée entre tes mains. Et merci, Seigneur, encore pour ta parole, pour ta présence. Amen.